Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême avec Arthur Depin sur le stand du Puy. Bonjour.
Bonjour.
Ça se passe bien à Angoulême pour vous, je suppose, avec toute votre actualité, un nouvel album pour Zombilennium, la projection du film demain, une Zombie Walk. Oui. C'est une année spéciale pour vous, en fait, pour Angoulême cette année, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un éditeur qui fait bien les choses, puisque c'est eux qui ont organisé justement cette Zombie Walk demain, évidemment liée avec la sortie du tome 4, et Zombie Walk qui sera clôturée par une projection du film au cinéma. Donc c'est bien. En plus, ça fait une petite piqûre de rappel pour les, soit pour les gens qui ont vu le film il y a longtemps, ou pour les gens qui ne connaissent pas le film, ou les gens qui ont vu le film mais qui connaissent pas la BD. Enfin, donc voilà, ça permet de, même si le film est sorti l'année dernière, ça permet de refaire un peu vivre tout ça et de faire un lien en plus entre le film et la BD. Ouais.
Vous participerez vous-même en tant que zombie à la Zombie Walk?
Alors non, il y en a eu d'autres, hein, des Zombie Walk, hein, on en avait fait une notamment au Festival d'Annecy. Je sais pas trop, j'y serai évidemment, hein, je déambulerai, je mettrai peut-être des petites canines de vampire, mais non, je serai pas déguisé en zombie. Alors, parce que je l'ai déjà fait une fois, en fait il se trouve que je faisais partie d'une batucada, et pour la sortie du tome 3, on avait fait une batucada de zombies. Donc j'étais en zombie, j'étais même en momie, avec un œil blanc, avec des bandes là, alors j'étais super bien maquillé, etc. Et c'était juste après cette déambulation, il y a eu en fait une rencontre avec le public, sauf que la rencontre avec le public, j'avais mes bandages, mon œil, j'avais donc un œil avec lequel je voyais rien, et c'est hyper perturbant de parler quand on a un œil comme ça, et en plus j'avais les dents pourries, enfin voilà, et donc et j'étais hyper mal à l'aise en fait, surtout qu'en plus je répondais à des questions très sérieuses et tout avec ma tête de, et donc là je me suis dit non, on peut pas tout mélanger, je pense qu'on peut pas être jugé parti, on peut pas être à la fois faire partie d'eux et ensuite être être l'auteur de, donc je pense que je serai là évidemment demain et je vais encourager les zombies, mais je ne serai pas un zombie.
On va rentrer un peu plus donc dans le nouveau volume de Zombilennium qui est sorti. Pour les premiers, vous nous disiez que vous dessiniez tout en numérique. Est-ce que vous avez évolué du coup sur votre technique pour la sortie du quatrième volume?
Évoluer, je sais pas dans quel sens, parce que c'est toujours numérique.
Mais je veux dire, vous utilisez toujours les mêmes techniques. Vous nous expliquez que c'était un logiciel qui n'était pas fait pour le dessin normalement et que vous avez transformé pour vous s'adapter à votre envie.
Oui, c'est Illustrator. Alors j'ai évolué dans l'utilisation de ce logiciel que je continue encore de découvrir. Hein, ce logiciel c'est mon outil de prédilection, hein, depuis 20 ans. Oui, j'ai absolument pas envie de faire un truc avec des techniques traditionnelles. Ça m'intéresse pas. C'est pas le rendu que je cherche à obtenir. Et j'ai même évolué parce que dans les trois premiers tomes, je faisais toutes les planches sur 100% sur Illustrator, et la couverture c'était dessiné sur Illustrator, mais je faisais les effets, les ombres et les lumières sur Photoshop. Là par contre, c'est même la couve aussi 100% Illustrator. Parce que peut-être me suis amélioré aussi j'ai découvert encore plus ce logiciel et j'arrive à faire des trucs que je n'arrivais peut-être pas à faire il y a 10 ans. Donc là c'est 100% Illustrator, pour moi, c'est un peu un aboutissement parce que voilà, c'est-à-dire que l'album n'a pas de pixels et que je pourrais, si un jour quelqu'un a envie d'imprimer l'album d'un album qui a la taille d'un terrain de tennis, c'est tout à fait possible. Voilà.
On pourrait avoir une bande dessinée grandeur nature en quelque sorte.
Tout à fait. Ça serait génial, ouais, avec les personnages grandeur nature, complètement.
Ce quatrième volume, vous le pitchez comment? Vous le pitchez sur évolution dans le parc? Vous le pitchez genre nouveau duel entre sorcières?
Alors ça serait oui, parce que ça fait très longtemps que de toute façon que j'avais prévu de faire de créer une rivale pour Gretchen. Là, fallait pas que je me loupe, et c'est vrai que de toute façon c'est elle qu'on voit en couverture. Donc je pense que le lecteur se doute que Charlotte, on la verra jusqu'à la fin. Bah, la fin qui sera à la fin du sixième tome, puisqu'il y aura six tomes du moins pour ce cycle. Et par contre, alors l'autre petit changement, c'est que bon, dans les trois premiers tomes, je parlais de l'univers de l'entreprise. Donc là, l'entreprise, c'était le parc. Et là, je suis monté d'un grade, je suis monté d'un cran. C'est-à-dire que j'ai abordé pas seulement le parc en lui-même, mais ce qu'il y avait au-dessus. C'est un peu comme si je parlais d'une société, et puis là, tout d'un coup, je parle du CAC 40. C'est-à-dire que je parle peut-être aussi de l'économie, de la, la, de, comme on parle de l'économie d'un pays en général, plutôt que de se focaliser sur une entreprise, bah, là c'est pareil. Et donc cette idée en fait de diable comme ça qui assiste à un big board avec chacun représentant un domaine, enfin, c'est une idée qui m'est venue il y a très longtemps. C'était même, on a même failli la mettre dans le film. Et puis finalement, on s'est dit non, on va rester dans le parc parce que ça fait beaucoup trop. Et alors là, par contre, je me suis dit tiens, bah, c'est le moment de la ressortir. Voilà. C'est-à-dire, bah, déjà de présenter le personnage de Behemoth, qui est le papa de Gretchen, qui est le diable, mais qui finalement, ce n'est pas le diable. En fait, c'est un diable. En fait, des diables, il y en a plein. Et en fait, ces diables, ils utilisent les âmes des mortels comme monnaie d'échange. Et ce qui est le cas d'ailleurs de toute façon dans Faust, dans n'importe quelle mythologie un peu chrétienne moyenâgeuse, voilà, c'est et donc là on franchit un peu cette étape et donc ça lève encore plus un peu la dramaturgie de l'histoire qui va durer jusqu'au tome 6, puisque voilà, c'est pas seulement l'avenir du parc en tant que tel, c'est aussi l'avenir de tous ses occupants et ça va se jouer évidemment à un niveau un peu supérieur.
Vous nous disiez que c'était une idée à vous, c'est aussi une demande du public. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit c'est bien le parc, mais on aimerait avoir justement tous les enfers de révéler au fur et à mesure des albums? Alors ça veut dire que vous allez travailler jusqu'à la fin de vos jours aussi, peut-être?
Non, là c'est une idée à moi. Non, vraiment, c'est... Non, y a... ça peut arriver que des gens extérieurs, enfin, ou que ce soit Fred, mon éditeur, ou d'autres gens me donnent des idées, ou m'influencent, ou... Je me souviens, par exemple, pour le tome 1, alors il faut savoir que Gretchen est inspirée par une copine à moi qui existe en vrai, qui s'appelle Aurélie, que je salue au passage. Et en fait, à la fin du tome 1, par exemple, il y a Gretchen et Aurélie dans la voiture et je me dis, est-ce qu'il faut qu'ils s'embrassent ou pas? Et je pose la question à donc cette fameuse Aurélie, parce que je lui dis, attends, c'est toi la fille là, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, est-ce que toi, il faut qu'ils s'embrassent? Puis elle me dit, non, c'est nul. Mais avec cet air-là, avec le même air, et là je dis oui, mais t'as complètement raison, effectivement c'est nul. Et d'ailleurs ils s'embrassent pas, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Alors, après ils s'embrassent par la suite, mais voilà. Donc c'est, mais pour, enfin les lecteurs non. Généralement, je pense que, et même si les lecteurs me demandaient quelque chose, je pense que j'en tiendrai pas compte, parce que c'est pas à eux de décider ce qu'il y a dans les. Si on a envie de tuer un personnage, on le tue et c'est tout, quoi. Voilà.
Justement, ces personnages, depuis le temps que vous les faites vivre, là, vous avez des idées jusqu'au volume 6. Est-ce qu'ils ont grandi, mûri au fur et à mesure, ou est-ce que vous avez gardé leur fiche signalétique telle qu'elle depuis le départ?
Alors oui, ils ont grandi. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs, ils grandissent un peu en même temps que l'histoire, mais ça je pense que c'est pareil avec tout le monde. Mais c'est vrai que, alors déjà physiquement évidemment, Gretchen, elle a, dans le tome 1, elle a une tête d'ado un peu joufflue, alors que là dans le ça y est, maintenant elle a une mâchoire plus carrée. Alors c'est amusant parce que d'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est quelque chose dont j'ai eu l'idée de me servir pour le film. Le film donc dure 1h30, il est étalé, on va dire chronologiquement, sur à peu près 2 semaines, mais je me suis dit ça serait intéressant, étant donné que dans le film Gretchen mûrit. Elle passe d'une ado capricieuse à une femme déterminée qui sait ce qu'elle veut. Et je me suis dit, ça serait amusant de réutiliser ça pour montrer que le personnage évolue. C'est-à-dire que, de manière très subliminale, en fait, la modélisation de Gretchen dans le film change. C'est-à-dire que, entre le début et la fin, elle a à la fin les mâchoires plus carrées, les épaules plus... voilà. Et je trouve ça intéressant d'utiliser cet effet dans le film. Et alors, dans la BD, oui, donc c'est le cas. Elle évolue. Et puis les personnages... Alors, les autres... Théoriquement, ils ne vieillissent pas, puisque bon, ce sont des zombies, des vampires et compagnie. Mais parfois, j'aime bien leur faire changer de look. Entre le tome 1 et le tome 2, Aurélien a des pattes, un bouc. Enfin, il s'est donné un look, alors qu'avant, il a eu les cheveux en pétard, etc. Donc ça montre que voilà, il assume son statut de démon. Et dans le tome 4, par exemple, Francis a une barbe, enfin un look un peu de vieil ermite, mais parce que et surtout, il a laissé tomber la cravate. Sa cravate étant un peu le symbole du directeur, et ben voilà, maintenant il n'est plus dans le parc, donc je dirais il a un look un peu plus casual, donc ça veut dire beaucoup aussi sur l'état, aussi la fonction qu'ils occupent à ce moment-là.
Pour repasser du côté du film qui va être diffusé demain, le travail sur un média différent vous oblige à réfléchir aux personnages différemment aussi, parce que ils bougent dans le film par rapport à la BD où, alors certes il y a du mouvement, mais il n'y a pas les mêmes effets, etc. Est-ce que vous les appréhendez différemment Et est-ce qu'il y a une sorte de, d'échange mutuel entre des choses que vous avez fait dans le film ou que vous n'avez pas pu faire justement et que c'est disait que vous allez reprendre sur de la BD ou des plans que vous pouvez pas faire parce que c'est peut-être trop compliqué en animation et vous dites bah si je le dessine sur deux cases finalement je me serais fait plaisir parce que c'est un plan sympa, des choses comme ça.
Ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il est, alors il y a plus de possibilités dans un film, c'est sûr, parce que la BD marche sur des ellipses hein, c'est-à-dire que on peut pas décomposer en mouvement. Petit exemple, dans le tome 1, il y a une scène notamment où Aurélien se réveille, se regarde dans la glace, puis il se rase, puis il se met du déo, puis en fait il se regarde, il fait les muscles et tout ça. Ça, c'est étalé sur 8 cases. Mais je suis pas très à l'aise avec ça. Ça aurait été un film, bon bah là on aurait fait tout d'une traite, raconté comme ça. Là, je trouve pas ça, j'avais l'intention de mettre ça, mais je trouve pas que ça fonctionne très très bien. Pareil, dans une BD, on peut pas faire un personnage danser. Je trouve que globalement, on peut dessiner un personnage danser, mais on met des petits traits sur les pieds, on met des petites notes pour dire qu'il y a de la musique, mais on peut pas faire un personnage danser. J'aurais pas pu faire la scène du concert, enfin, elle aurait été beaucoup moins bien. Donc vraiment, là, j'ai envie de dire, avantage quand même le film. Mais par contre, la BD permet peut-être par contre une liberté de ton. Notamment dans la violence, par exemple, là, c'est beaucoup moins violent en BD finalement. Dans le tome 2, il y a quand même une scène, un moment avec un personnage qui se fait tabasser par un groupe, ce qui est pas très très agréable. Et là, en BD, en fait, alors c'est ce que disait justement Scott McCloud, c'est que en BD, c'est le lecteur qui indique le degré de violence, parce qu'il y a juste, on voit juste des bonhommes avec un geste figé, et il y a juste marqué pif paf boum. Et au lecteur de décider, en fonction de sa sensibilité, de si c'est des énormes coups dans la gueule ou si c'est des petits coups. Et je dirais presque que les onomatopées, en plus, rendent le truc un peu, entre guillemets, un peu gaguesque. Donc, c'est très léger. Alors que ça, cette scène dans un film, ce serait insoutenable. Parce que dès qu'il y a du mouvement, et ça serait insoutenable, même pour un adulte. Et parce que beaucoup de gens, pour le film, disent « Ah, mais c'est un peu édulcoré ». Je dis, mais c'est le médium qui veut ça. Nous, évidemment, on n'a pas envie que le film soit classé au moins de 18 ans. Mais même, notre but, c'est pas de faire un film violent. C'est, on s'en fiche de la violence. Nous, c'est pas du tout notre but. On veut faire un film d'action, certes, mais donc évidemment, parfois, inconsciemment, on a peut-être mis un peu d'eau dans notre vin, mais c'est surtout, on a peut-être filtré des scènes qu'on jugeait inutilement violentes et voilà. Donc c'est vrai qu'il existe quand même des différences entre la BD et le film, et il y a des scènes qui sont plus profs à l'un ou à l'autre.
Là, vous annoncez donc 6 volumes, ça va vous occuper beaucoup. Est-ce que vous avez un peu sous le coude quand même un projet de deuxième film ? Est-ce que s'il y a des gens qui vous font des appels du pied, ou est-ce que vous tirez un peu certaines ficelles ?
Et oui, en fait, mon producteur et moi-même, on est de toute façon d'attaque pour faire un deuxième film. L'équipe aussi, mon co-réalisateur aussi. Je pense que la plupart de l'équipe, sauf s'il travaille sur autre chose évidemment, mais je pense qu'il serait chaud pour repartir. C'est vrai qu'au début, là où j'étais moins chaud, c'est qu'on a eu, en fait, on a eu une mauvaise distribution, ce qui fait que le film est sorti dans beaucoup moins de salles que prévu, donc beaucoup moins de gens l'ont vu, et donc ça donne beaucoup moins envie d'en refaire un. Mais bon, voilà, ça c'est passé. Maintenant, finalement, je ne garde en mémoire que les bons souvenirs, c'est-à-dire cette prod qui était très bien. Ça me manque hein, de toute cette expérience. Donc oui, on en parle évidemment, et moi je souhaite très fort qu'il y ait un deuxième film.
Il y a déjà un calendrier de prévu pour le tome 5 et le tome 6, ou vous travaillez à votre rythme ?
Il n'y a rien. Je dirai rien parce qu'il n'y a pas de. Justement, je veux pas être piégé par ça. Je peux juste dire que le tome 5 sortira en 2020. Voilà. Mais il n'y aura pas à attendre 5 ans avant d'avoir le tome 5. Mais par contre, je veux surtout pas me mettre une pression. Parce que là, bon, j'ai enchaîné tome 3, le film, le tome 4 sans interruption. Donc là, voilà, exactement.
Je vais vous proposer d'emprunter un chemin, d'emprunter une voie. C'est-à-dire que vous pouvez partir soit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, le chemin de briques jaunes, la stairway to heaven, la highway to hell, ou partir vers l'infini et au-delà.
Highway to hell, évidemment. Bah oui, forcément, parce que, enfin, heaven, je pense qu'on s'ennuie. Voilà, les étoiles, c'est peut-être très bien, mais... Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc non, mais je ne sais plus quel était le premier avec des briques jaunes. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais franchement, I Wait Well, ouais.
Un mot sur l'ambiance d'Angoulême?
L'ambiance d'Angoulême, je l'ai pas trop senti parce que nous, on a un programme quand même très chargé ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais là où je suis très content, c'est que tous les gens qui viennent en dédicace sont vraiment super sympas. Souvent, il y en a beaucoup qui ont découvert la BD par le film et ils posent beaucoup de questions sur l'histoire, sur la suite. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ont bien accroché. Donc, vraiment très content de cette édition d'Angoulême.